Mesdames, messieurs, bonjour à tous.
Ben je reprends donc le chapitre là où on l'avait laissé. Alors une redite, une de plus, à propos de l'estampe japonaise, et je vais me permettre de rappeler ce qui a été dit les fois précédentes dans ce chapitre concernant l'art japonais. Rappelez-vous que depuis l'époque Heian, il existe au Japon une littérature profane et narrative, et que celle-ci culmine avec un texte qui est le texte le plus célèbre de l'époque médiévale, voire de la littérature japonaise, et qui compte énormément dans la littérature universelle, c'est le Genji Monogatari, le dit de Genji, qui a été écrit par Dame Murasaki Shikibu au début du XIe siècle, etc., etc. Alors, parallèlement, se développe une tradition de l'imagerie profane, et cela dès l'époque Heian, si bien que la littérature et l'illustration entretiennent au Japon des liens qui sont très étroits, dans un style, d'ailleurs, qui s'appelle le Yamato. Et peinture à la manière du Japon, ça veut dire une peinture d'inspiration profane, d'inspiration japonaise et profane, qui est très très populaire à l'époque Kamakura. Le Yamatoe était très populaire à l'époque Kamakura. Puis, une évolution de ce genre pictural est sensible aux époques Muromachi et Momoyama, c'est l'ukiyo-e qu'on avait présenté la fois précédente, c'est-à-dire cette peinture du monde qui passe, cette image du monde flottant. On retrouve là une vieille notion bouddhiste qui est la notion d'impermanence. Bon, en tout cas, l'ukiyo-e est d'inspiration plus populaire encore que le Yamatoe, c'est une extension du Yamatoe, hein, c'est dans la continuité du Yamatoe, mais c'est encore plus populaire que le Yamatoe, et l'initiative de ce genre pictural, l'ukiyo-e, est due à des peintres indépendants qui décoraient des paravents. Et on pourrait citer à ce propos ce Iwasa Matabe, que j'avais évoqué un peu, je crois, la semaine dernière, qui a été considéré comme le père de l'ukiyo-e, ce serait le père de l'ukiyo-e, mais la paternité est aujourd'hui extrêmement disputée, donc il faut être prudent. Tout ce que l'on peut dire pour être le plus proche de l'histoire et de la vérité historique, c'est qu'à la fin de l'époque Muromachi, au début de l'époque Momoyama, là se développe ce genre artistique qui est l'ukiyo-e, et que Iwasa Matabe est un représentant de l'ukiyo-e. Bon, alors insistons encore sur cette imagerie japonaise, en se détachant dès l'époque médiévale de l'iconographie religieuse, on s'est appliqué à observer la vie quotidienne, et là vous avez un trait typique de la culture japonaise, c'est-à-dire quelque chose d'incomparable. Au Moyen-Âge, chez nous, on ne s'intéresse pas du tout à la vie quotidienne, et encore moins à rendre l'image de la vie quotidienne. Ce que l'on peint à l'époque médiévale chez nous, ce sont des Christs et des Vierges. Mais là vous avez un trait qui est vraiment typique de la culture japonaise, la vie quotidienne, le pittoresque spectacle de la vie japonaise qui devient pour les peintres une source d'inspiration et qui donne naissance par conséquent à l'ukiyo-e. Dorénavant, l'anecdote tirée de la vie de tous les jours se suffit à elle-même, et on peint des vues de rue, c'est des vues de rue avec des gens qui se rendent à leur travail ou à leur loisir. Qui sont ces gens, on ne sait pas, c'est vraiment tout à fait anonyme et anecdotique. Le plus souvent, le tout est rendu dans une perspective cavalière, afin de rendre à la fois l'ensemble de la rue, mais aussi les détails, c'est-à-dire les personnages. Bon. Et si on cite maintenant un écrivain japonais du début de la période Edo, Edo, rappelez-vous, ça commence en 1603, juste après Momoyama. Donc là, nous sommes dans la première moitié du XVIIe siècle, avant 1650. L'écrivain japonais en question s'appelle Hase Riwa, et Hase Riwa définit l'ukiyo-e. Il écrit ou laisse une œuvre qui s'intitule « Légende du monde flottant », autrement dit « Ukiyo Monogatari. Monogatari, c'est le roman, ou les légendes dans ce cas, légende du monde flottant, et il se permet de donner une définition de l'ukiyo-e, de ce monde flottant, si vous voulez, et voici ce qu'il nous dit, c'est écrit dans la première moitié du XVIIe siècle, il s'agit de vivre en profitant du moment et des charmes de la lune, de la neige, des amandiers en fleurs, et des feuilles d'automne, d'apprécier le vin, les femmes et la musique, en se laissant emporter par le courant de la vie. Voilà ce que dit notre écrivain japonais, il définit parfaitement d'abord l'ukiyo-e en tant que genre littéraire, l'ukiyo-e en tant que art de vivre, et l'ukiyo-e en tant que peinture, image bien sûr, du monde flottant. Alors ensuite, rappelons, et c'est toujours un rappel, tout ça c'est un rappel des cours précédents, rappelons que si l'école Kano, c'est la plus célèbre et la plus importante de toutes les écoles picturales au Japon, si l'école Kano est désormais installée à Edo, la future Tokyo, c'est-à-dire la capitale à l'époque des Tokugawa. Bon, si cette école Kano reste traditionnaliste, si elle reste attachée au shogunat des Tokugawa, donc c'est-à-dire respectueuse du mécénat, donc des commandes des Tokugawa, par contre, il y a une autre école à Edo, c'est l'école Sotatsu, qu'on avait vu la semaine dernière. Et cette école-là a pour souci de réviser en profondeur les éléments caractéristiques de la peinture japonaise. Et elle connaît cette école. Une brillante renaissance au XVIIe et XVIIIe siècle, fin XVIIe, début XVIIIe, grâce à un peintre sur lequel on s'était arrêté la fois précédente. Souvenez-vous de ce Ogata Korin ou Corinne. Donc Ogata Korin, qui est un petit-neveu de Sotatsu, c'est l'école de Sotatsu, mais c'est le petit-neveu carrément du grand peintre Sotatsu, et Corin, rappelez-vous, crée une peinture qui rassemble toutes les qualités de l'art pictural japonais depuis que cet art pictural existe, donc c'est-à-dire au moins depuis l'époque Heian. C'est à l'époque Heian, souvenez-vous, que l'art japonais se distingue ou commence à se distinguer de la Chine et de la Corée. Et donc effectivement, Corin, lui, va rassembler dans sa peinture toutes ces qualités de l'art pictural japonais, c'est-à-dire qu'il atteint une stylisation dans laquelle la géométrie ordonne les compositions avec élégance, tandis qu'il synthétise au moyen de taches de couleur d'une touche à droite. Et quand on fait ce commentaire, on insiste sur trois mots, la stylisation, la géométrie et donc la synthétisation. Et là, vous avez les grandes qualités de l'art et de l'art pictural japonais. Mais pas seulement de l'art pictural. Hein. Le théâtre No, par exemple, est un théâtre qui est extrêmement stylisé, on l'avait expliqué la semaine dernière. Alors bon, oui, une peinture comme celle-ci est fascinante parce qu'elle annonce déjà la peinture occidentale plusieurs siècles plus tard, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, début XXe. On pourrait citer, pourquoi pas Van Gogh, on pourrait citer Matisse qui appréciera ce rythme. Ce rythme, c'est-à-dire un motif simplifié, synthétique, quasi décoratif, qui rythme la composition. Hein, il donne comme ça une musicalité à ses compositions, Matisse. Oui, mais tous ces peintres d'Occident sont très redevables. Ils sont infiniment redevables à l'art du Japon. Et donc, toute cette histoire picturale du Japon, l'histoire de la peinture japonaise nous conduit à l'estampe japonaise parce que cette peinture de l'ukiyo-e a un succès tel que les Japonais réclament ces images et qu'il faut un moyen de reproduction mécanique pour diffuser ces images et répondre à la demande des Japonais qui raffolent justement de ces images, c'est-à-dire l'ukiyo-e. Donc, on amorce le cours sur l'estampe japonaise, c'est-à-dire ce cours que j'avais déjà fait plusieurs fois, là, bon, les années précédentes. Bon, mais enfin, c'est vrai que dans la perspective dans laquelle on se trouve, là, ça serait dommage donc de pas refaire ce cours sur l'estampe japonaise. Donc, j'insiste beaucoup, les images les plus populaires étaient reproduites et largement diffusées au moyen de la gravure sur bois. Ce qu'on appelle l'estampe japonaise est en fait de la gravure. gravure. Hein. On peut distinguer effectivement la gravure de l'estampe. Par exemple, la lithographie, c'est de l'estampe. Hein. Par contre, là, on parle de xylographie. C'est donc bien effectivement un procédé de gravure. Mais enfin, le mot maintenant est consacré. On parle d'estampe japonaise. Passons sur ces détails qui sont tout à fait anecdotiques. Donc, la gravure sur bois, ça va permettre de reproduire ces images. Et c'est au XVIIe siècle que naît et se propage la gravure japonaise. Pas avant le XVIIe siècle. Avant, c'est de la peinture. Ce sont, on l'a vu la semaine dernière, des livres enluminés, donc manuscrits et enluminés, mais pas imprimés. Bon. Donc c'est au XVIIe siècle que la gravure japonaise se développe. Elle est issue de cette ville prospère et dynamique qu'est la capitale du Japon, c'est-à-dire Edo, aujourd'hui Tokyo. Et l'estampe appartient donc à ce genre que l'on appelle l'ukiyo-e, si bien que ça se confond et qu'on oublie parfois un peu trop vite que l'ukiyo-e c'est d'abord de la peinture avant d'être de la gravure, avant d'être l'estampe japonaise. Mais effectivement aujourd'hui si vous dites ukiyo-e, on va penser aussitôt à l'estampe japonaise. Mais avant c'était bien de la peinture, avant le XVIIe siècle, et encore au XVIIe siècle c'est et de la peinture et de la gravure. Bon, alors en tout cas donc c'est effectivement l'ukiyo-e, les images que veulent les Japonais, c'est de l'ukiyo-e, évidemment, c'est ces images anecdotiques, ce pittoresque spectacle de la vie japonaise, bon, etc. Et l'estampe que vous avez ici, là, sous les yeux, appartient à une série qui n'a pas de titre, qui n'est pas signé non plus, mais c'est une série de shunga. Et les shunga sont des gravures érotiques au Japon, qui font partie des gravures les plus appréciées, donc les plus diffusées au Japon. Du temps de l'auteur s'appelle ici Moronobu, du temps de cet auteur, le genre érotique, gravure érotique, shunga, s'appelait en fait makura. Et, makura et, c'est un petit peu plus poétique, image sur l'oreiller. C'est logiquement lisible là, sur la projection. Image sur l'oreiller. Donc c'est un genre qui est très rencontré, très diffusé. Dès le XVIIe siècle, effectivement, vous avez remarqué les dates de vie et de mort du graveur Moronobu. Donc il date du XVIIe siècle, il date du siècle de la naissance et de la diffusion de la gravure japonaise. Alors bon, ces estampes sont nombreuses. Donc là, vous avez donc un graveur qui a anticipé, qui est un des premiers, en tout cas connus. En voici un autre, qui lui est à cheval sur le XVIIe et le XVIIIe siècle, Torii Kiyonobu, cette fois-ci, et insistons encore sur le côté populaire de ces gravures. Hein. Des gravures populaires, des gravures qui sont peu coûteuses. Elles sont reproduites par un moyen mécanique. Donc elles se vendent facilement, elles sont pas chères, elles se vendent dans les rues, elles se vendent dans les villes japonaises, à commencer par Edo. Et on voit même des éditions qui sont pratiquement faites uniquement de gravures, par exemple des almanachs. On va éditer à partir du XVIIIe siècle les almanachs avec des eke, les fameux eke que j'avais dû évoquer la fois précédente, souvenez-vous, ces poèmes extrêmement brefs qui ne comptent que 17 syllabes, qui ont vraiment un succès fascinant parce que ce sont des poèmes très courts et qui sont à la fois calligraphiés et peint, et donc qui passe ensuite à l'imprimerie, qui se diffuse considérablement, comme les almanachs, hein, donc 18e siècle, almanachs, avec les fameux eke des Japonais. Bon, les estampes, comme on le voit, sont d'abord imprimées en noir, noir et blanc si vous voulez, enfin imprimées en noir, hein, comme on le voit ici, ça c'est typique du 17e siècle et encore un peu au début du 18e siècle. Ensuite, ces gravures en noir sont décorées à la main, c'est-à-dire qu'elles sont reprises par le graveur qui va ajouter à la main la couleur, quelques plans si vous voulez, ou quelques arrière-plans qui sont colorés, mais ça il le fait à la main. Bon, là nous sommes au début du 18e siècle, c'est assez courant, donc les gravures qui sont imprimées en noir, mais le graveur va ajouter la couleur à la main. Et à partir de 1765, sont tirées des planches de plusieurs couleurs, c'est-à-dire qu'on a effectivement une gravure qui est polychrome, si vous voulez, plusieurs couleurs, selon un procédé qui allait d'ailleurs caractériser le genre de l'estampe japonaise. Parce qu'effectivement, quand on dit ou quand on parle de l'estampe japonaise, c'est pas une estampe en noir et blanc, que l'on visualise. On visualise a priori une estampe en couleur. Ocusé, par exemple, la vague d'Ocusé, c'est en couleur. Hein, bon. Et là, effectivement, c'est un système, un procédé donc, de gravure en couleur, hein, sur lequel donc, je vais insister. Puisqu'il y a, dit-on, un artiste qui en est le promoteur, donc justement, de la gravure en couleur, c'est cet artiste-là, dont il faut, je crois, retenir le nom, parce que là, on commence à évoquer des noms de graveurs donc, qui sont très importants dans l'histoire de l'estampe japonaise. Donc Harunobu Suzuki, on dit de Harunobu Suzuki qu'il est le principal créateur de ce genre que l'on va appeler maintenant le Nishiki-e, c'est-à-dire l'estampe de brocart, brocart dans le sens qu'il y a de la couleur et de l'or si vous voulez. On trouve aussi, plutôt que le Nishiki-e, on trouve Edo-e. Edo, c'est le nom donc de la capitale, c'est-à-dire la future Tokyo, et vous rajoutez donc E, Edo-e ou Nishiki-e, c'est la même, le même type d'estampe, c'est-à-dire en couleur, estampe en couleur finalement, hein. Donc selon une technique bien sûr en couleur, où là le peintre ne rajoute pas à la main la couleur est imprimée comme bien sûr le noir. Alors bon, on pourrait le présenter autrement, le Nishiki-e est une des étapes technique de la mise en couleur des estampes japonaises. C'est une des étapes techniques de la mise en couleur des estampes japonaises. Ces Nishiki-e ont été inventés vers 1760-1765, perfectionnés et popularisés par ce peintre Harunobu Suzuki, et ça correspond bien sûr au goût entretenu par les Japonais depuis au moins l'époque Momoyoma, pour l'or. Vous vous rappelez effectivement à l'époque Momoyoma, les Japonais apprécient les peintures qui ont des fonds d'or, des peintures qui sont colorées, bon, des peintures aussi qui sont extrêmement précieuses, luxueuses. Bon, ils ont toujours gardé ce goût du luxueux, des couleurs de l'or, et effectivement, ils exigeaient, ces Japonais, non pas des gravures en noir, et blanc, mais des gravures en couleur. Bon. Et ce procédé, bien sûr, va permettre de répondre à la demande. Alors, on peut être un peu plus précis sur la technique. La technique en question, le Nishiki-e, est une technique impliquant des planches de bois multiples. C'est-à-dire que pour arriver au résultat que vous avez ici, il a fallu des planches, plusieurs planches de bois, donc, une planche principale porte le dessin proprement dit, qui lui sera imprimé en noir et blanc, puis il faut compter une planche pour chaque portion de l'image, hein, qui sera la portion en couleur. Une planche supplémentaire qui restitue le dessin, mais qui va s'attacher à une portion de ce dessin, bien sûr, et qui sera la portion en couleur. Donc il faut plusieurs planches, en fait, hein, pour arriver donc à une chromoxylographie, si vous voulez, une xylographie en couleur. Et ça permet d'utiliser un grand nombre de couleurs différentes et de parvenir finalement à des images qui sont très complexes, très détaillées, très colorées aussi. Donc là, ce n'est que le début, avec Harunobu Suzuki, donc il n'y a pas encore beaucoup de couleurs, mais vous allez voir avec Ocusé notamment, à quel point ces couleurs sont riches et complexes. Mais il ne faudra jamais oublier que pour ces estampes de couleurs, il a fallu plusieurs planches. Hein, et donc, la première pour le dessin, et les autres pour chaque portion en couleur de l'image. Et donc, une planche par couleur, bien sûr. Et ça passe sous presse, et on arrive à force, effectivement, à imprimer la couleur sur la même feuille. Voilà donc un peu ce qu'est le Nishiki-e. Donc c'est vraiment donc un développement considérable de l'estampe japonaise. Donc là vous avez des estampes typiques de Harunobu Suzuki, des estampes qui appartiennent à l'ukiyo-e, c'est toujours bien sûr des scènes anecdotiques, excepté cependant pour les représentations à droite de deux personnages que vous connaissez, qu'on avait déjà évoqués, qui viennent de Chine à ce propos, qui viennent d'un récit qu'on appelle le Anshanshi, donc c'est un recueil de poèmes en fait, le Anshanshi qui a été rédigé très tôt en Chine, ça vient de Chine, et donc au Japon, les deux protagonistes du Anshanshi s'appellent Kanzan et Jitoku. Et on avait évoqué déjà ces personnages, qui sont un peu facétieux d'ailleurs, hein. Ce sont des personnages assez, assez grotesques quand même, ce n'est pas ce qu'a voulu ici le peintre, l'artiste si vous voulez, qui n'a pas voulu rendre le côté grotesque de Kanzan et Jitoku. Pourquoi ? Parce que dans l'ukiyo-e et le monde de l'estampe japonaise, ce que l'on apprécie surtout, ce que les Japonais appréciaient, c'est ces figures très, très belles, très esthétiques, très stylisées, surtout ces belles femmes que l'on appelle les bijin, et effectivement cet artiste Suzuki en était un spécialiste des bijin, de ces courtisanes, si vous voulez, hein, de ces belles femmes qui occupent bien sûr l'essentiel du sujet, voire carrément, qui occupe le champ artistique sans qu'il y ait de contexte particulier. Ben, là, vous avez du même artiste, Harunobu Suzuki, une de ses estampes qui était les plus appréciées du moment, avec un peu de couleur, vous voyez, un peu de couleur, mais ça dit effectivement ce que c'est une estampe Nishiki-e, courtisane sur une véranda, de Harunobu. Alors ça reste de l'ukiyo-e, hein, bien sûr, un nishiki-e, on a compris, c'est la référence en fait à une technique, hein, une technique, c'est de la gravure en couleur, hein, c'est de l'ukiyo-e, mais en couleur. Donc là, ce qui me paraît intéressant dans cette image qui appartient à l'ukiyo-e, c'est la perspective oblique, perspective cavalière et oblique, c'est la référence au Yamato-e, c'est-à-dire à l'illustration telle qu'elle existe depuis l'époque Heian, au moins. Et ensuite, c'est l'originalité du point de vue et l'originalité du contexte dans lequel se trouve cette courtisane. Puis, au-delà donc, de cette perspective qui est vraiment donc, très originale, très habile, aussi du contexte qui est la véranda. Donc, il situe cette courtisane dans une véranda, on a un jeu d'ombre. On a un théâtre d'ombre, c'est-à-dire qu'on peut, à partir des figures que l'on voit de l'autre côté de la cloison de papier, hein, donc il y a effectivement des figures qui, elles, quant à elles, jouissent d'un plaisir, qui est un plaisir de la musique. On voit effectivement un instrument, là, ici, qui dépasse. Et donc, à partir de ce jeu d'ombre, de ce théâtre d'ombre, un scénario se construit inévitablement, immanquablement. Qui est cette courtisane qui a refusé finalement ou qui a quitté les lieux, cet intérieur où on jouit, où on profite d'un moment agréable, c'est-à-dire des plaisirs de la musique, de la rencontre, de la conversation. Quelle est son histoire finalement ? Vous voyez, donc ça devient intéressant parce que ça suggère un questionnement. Et c'est pourquoi les thèmes et le traitement non conformiste que ces estampes offrent de la vie contemporaine seront très proches des représentations impressionnistes. Les impressionnistes plus tard seront fascinés par ces images parce qu'elles sont d'un modernisme incroyable. Elles ne sont pas conformiste du tout, en tout cas pas académique du tout, évidemment, et ça ne parle que de la vie de tous les jours, la vie banale, avec ses accidents parfois, donc ses tristesses, ses charmes, etc. C'est l'ukiyo-e, c'est ça qui a tant fasciné les impressionnistes. Alors, insistons sur ces bijin, et je vous rappelle à ce propos le grand maître, hein, le grand maître de l'estampe japonaise, celui qui était le grand spécialiste des bijin, on l'avait vu en fin de cours la semaine dernière, c'est ce fameux Utamaro Kitagawa, et qui laisse effectivement des bijin, donc des estampes japonaises d'une qualité, mais alors vraiment d'un raffinement extraordinaire. Remarquez qu'il n'a pas besoin de beaucoup de couleurs. Quelques portions de l'image hein, donc ont été colorées, bien sûr selon la technique du Nishiki-e, mais pas beaucoup. Il n'a pas besoin de beaucoup de couleurs pour donner de la force et de l'intérêt, de la qualité à ces bijin. Donc ça, c'était vraiment le plus apprécié. Les Japonais aimaient ces représentations de belles femmes qui occupent le champ de la composition. Parfois, il y a des arrière-plans, on l'avait vu la semaine dernière. Parfois, il y a une action qui se joue, par exemple, à gauche, coiffeur de la série d'Ousti de l'artisanat des femmes, toujours du même artiste Utamaro Kitagawa, mais le plus apprécié c'est le type de bijin comme à droite, la jeune femme essuyant sa sueur. Hein. Bijin, vous pouvez dire aussi bijin ga, donc en rajoutant ga, ga, hein, comme ukiyo e, donc tiré e, e, donc si vous voulez, là vous pouvez rajouter tiré ga, ga, comme dans manga. Manga. Et le ga en question désigne la représentation graphique, c'est-à-dire ga va désigner le dessin, la peinture, toute image dessinée, comme l'estampe par exemple. Donc là vous avez bien effectivement une bijin ga, Binjinga, c'est-à-dire une estampe, une représentation graphique d'une belle femme, Binjin. Et tout à l'heure, bien sûr, on reviendra sur la manga. Donc la manga, bien sûr, c'est même le cœur même du cours d'aujourd'hui, la manga. Voilà pour cette imagerie. On se rapproche parce que ce qui est fascinant, c'est avec cet artiste, le soin qu'il prend au détail, le peigne, et comment ce peigne passe dans les cheveux de cette femme qui se fait coiffer, mais c'est merveilleux. Enfin, ce jeu de transparence qu'il arrive à trouver, à suggérer finalement. Hein, et donc il y a une illusion qu'il produit, comme s'il avait représenté les cheveux les uns à côté des autres, les uns après les autres, pas du tout. C'est un effet. Hein, c'est toujours les mêmes qualités de l'estampe japonaise. Une simplification visuelle. Simplification visuelle, parfois un schématisme. Une synthétisation, finalement, il synthétise au maximum les choses, mais il arrive à des effets qui sont brillants. Puis alors, quel graphisme ! C'est de la calligraphie, décidément, hein, depuis qu'on évoque cette peinture extrême orientale, que ce soit en Chine ou au Japon, le lien avec la calligraphie est frappant. Il faut être calligraphe pour arriver à ce soin que l'on prend à la ligne et à lui donner cette force, cette intensité. D'ailleurs, remarquez que la ligne se suffit à elle-même et que ce serait dommageable si le peintre, l'artiste, si vous voulez, avait ajouté à ce beau visage un modelé, des jeux d'ombre et de lumière dans la tradition européenne, occidentale, on pourrait dire dans la tradition léonardesque, ça serait une catastrophe hein, pour ce chef-d'œuvre de cet artiste s'il y avait un jeu d'ombre et de lumière. Le graphisme se suffit à lui-même, c'est magnifique, c'est splendide. Ce traitement de la chevelure, par exemple, c'est incroyable. C'est là où on se pose des questions, finalement. Hein. Donc, à propos de notre tradition occidentale, en tout cas, ces questions, elles ont été sérieusement posées par de jeunes artistes qui, autour de 1850, refusaient l'académisme chez nous. Hein, donc, qui refusaient l'académisme et qui se disaient, non, c'est pas possible, on peut pas continuer de peindre comme on peignait à la Renaissance, puisque encore au sein de l'académie, l'Académie des Beaux-Arts à Paris, on peignait au XIXe siècle comme on peignait à l'époque de Léonard de Vinci. C'est pas possible, il fallait bien que ça change quand même. Bon. Et donc, regarder du côté de l'extrême-orient, ça a été, mais donc vraiment complètement bouleversant, révolutionnaire hein, pour l'art occidental. Enfin, oui, c'est effectivement, quand on voit ça, c'est absolument magnifique. Alors bon, c'est ça que les Japonais aiment, c'est ça l'ukiyo-e, c'est ça donc qui se diffuse, qui est reproduit par un moyen de reproduction mécanique, la gravure sur bois, donc ça se diffuse, on aime ce type d'image, et l'image érotique, l'image pornographique est très très apprécié. C'est encore vrai aujourd'hui, hein, puisque après tout, la manga, c'est quelque chose d'actualité, la manga. Et les mangas érotiques ont toujours beaucoup de succès. La manga qui est pornographique est une imagerie à succès qui vient donc du Japon. Donc shunga, hein, vous pouvez appeler ça shunga, gravure érotique, c'est le terme a priori qui est utilisé à l'époque de Utamaro Kitagawa, mais remarquez le nom qu'il donne à son estampe, ou plutôt à la série de l'estampe, poème sur l'oreiller. Et ça nous rappelle par conséquent le makura et, c'est-à-dire les images sur l'oreiller, dès le XVIIe siècle, hein, les gravures produisaient des makura-e, des images sur l'oreiller. Ici, il y a une petite allusion au makura-e, mais sinon c'est bien sûr du shunga, des gravures érotiques. Alors érotique, là ça va, hein, donc j'ai choisi bien sûr quelque chose qui est présentable, hein, sinon c'est franchement érotique, c'est très très pornographique, et ce sont les plus grands maîtres hein, qui ont fait ça. Donc Kitagawa, Okuse, a laissé une série de shunga, mais franchement érotique, voire parfois ça devient grossier. Mais pourquoi ? Parce que il faut bien comprendre que cette imagerie est destinée à une population japonaise qui ne constitue pas l'élite. ça n'est pas l'élite cultivée. Et l'élite cultivée japonaise à cette époque, mais méprise l'ukiyo-e, hein, ne veut pas entendre parler et ne collectionne pas, donc n'a pas d'ukiyo-e. L'élite japonaise de cette époque commande à des peintres de l'école Kano, pourquoi pas, bon, là je simplifie, donc ils commandent des peintures, et des peintures qui sont élitistes et qui font référence à quoi? Au bouddhisme zen, au taoïsme, même au taoïsme, même si c'est chinois, bon, des références au taoïsme, etc., etc., enfin, une peinture élitiste. Mais là, c'est populaire, ça, c'est très très populaire. Et ça ne plaît pas à l'élite japonaise. Et l'élite japonaise a eu du mal à comprendre l'intérêt de l'ukiyo-e. Il a fallu finalement que l'élite japonaise, c'est-à-dire la catégorie la plus riche des Japonais au XXe siècle, commence à s'intéresser à l'impressionnisme français, c'est-à-dire commence à collectionner de l'impressionnisme français et commence à comprendre que l'impressionnisme est issu de l'ukiyo-e, pour donner de l'intérêt à l'ukiyo-e. Sinon, l'élite japonaise était fermée complètement à cette imagerie triviale, imagerie grossière, vulgaire, pornographique, que sais-je encore, et ça a duré longtemps au XXe siècle. Bon, alors voilà, donc là vous avez effectivement donc un très grand maître, Utamaro Kitagawa, c'est un très très grand maître de l'estampe japonaise, donc lui on peut ajouter, on l'avait vu d'ailleurs, on l'avait évoqué, Shunsho Katsukawa. On l'avait évoqué la semaine dernière, Shunsho Katsukawa, mais là je vous le présente avec une image qu'on n'avait pas vue la semaine dernière, c'est juste pour dire qu'à ces portraits féminins d'une extrême élégance, ces Bijinga finalement, il faut ajouter des portraits d'acteurs de théâtre qui en accentuent l'expression tout en gardant un réalisme aigu, ce qui nous fait dire que les maîtres de l'estampe japonaise ont toujours ce goût qui est bien inscrit dans l'art japonais depuis très très longtemps, un goût du réalisme, donc c'est ce qu'on appelle le nisei-e, le goût du portrait réaliste, le nisei-e, donc ça c'est vieux comme l'époque Heian, donc ils ont ce goût-là, ils conservent ce goût, et le goût aussi de l'expressionnisme, souvenez-vous, les masques du théâtre no, que j'ai dû vous présenter, qui sont expressionnistes. Et donc c'est pour dire que parallèlement à ces très très beaux portraits donc, de femmes, ces bijin qu'on a évoqués à l'instant, il y a ces portraits d'acteurs de théâtre qui jouent sur l'expressionnisme ou un réalisme aigu. Alors il y a plusieurs maîtres, donc il y a ce Shunsho Katsukawa qu'on avait déjà rencontré la semaine dernière, qui ici représente des acteurs, tout simplement, donc vous avez les noms des acteurs, ne prenez pas ça bien sûr, ce qui m'intéressait surtout c'est que c'est présenté sous forme de triptyque, d'un vrai triptyque. Trois acteurs, un triptyque. Et on voit effectivement que derrière les acteurs, il y a une bande qui unit les trois panneaux. Un vrai triptyque. Et un autre nom, là vous avez à côté un autre nom, Sharaku Toshuze. Et ce Sharaku Toshuze a été un acteur de profession. C'est un acteur professionnel, en plus d'être un peintre, un graveur, puisque c'est toujours de l'estampe, bien sûr. Enfin, on peut dire peintre. Donc, il a été acteur de profession et il a laissé des portraits de ses collègues, qui étaient acteurs comme lui, d'une remarquable intensité, où il joue sur une certaine ambiguïté, comme ici, par exemple, un acteur qui est représenté dans un rôle de femme, et de lui, de ce maître de l'estampe qui s'appelle Sharaku Toshuze, on a conservé une série de 140 planches gravées probablement entre 1794 et 1795, donc fin 18e, 140 de planches qui représentent des acteurs. Donc c'est pour dire, voilà, c'est un genre qui est extrêmement important, c'est un genre très apprécié, c'est un genre qui est très répandu à côté des bijin. Il y a les bijin et il y a les portraits d'acteurs de théâtre qui se diffusent, très appréciés par les Japonais. En plus des almanachs, les almanachs qui sont illustrés, oui, illustrés de Eke, etc., etc. Enfin, voilà, donc ça vous donne une petite idée. Et tout ça, ça fait partie de l'ukiyo-e, bien sûr, c'est de l'ukiyo-e. Quand c'est en couleur, c'est du nishikie. Bon, mais justement, c'est à la fin du XVIIIe siècle que commence à décliner l'art du portrait gravé. C'est-à-dire que ces portraits de belles femmes, ces bijines, ou encore ces portraits d'acteurs que vous avez ici, commencent à décliner, à tomber. Donc, on n'a plus le goût, si vous voulez, arriver au XIXe siècle, on n'a plus trop le goût pour ce genre de sujet. Et les artistes retournent alors au paysage. Et c'est par ce retour au paysage que l'on arrive au grand maître, c'est-à-dire à Katsushika Okuse. Tout le monde connaît la vague, bien sûr, ou plutôt sous la grande vague au large de la côte à Kanagawa. C'est justement parce qu'on avait délaissé un petit peu le portrait que Okuse a été, on peut dire, le promoteur. Il a été le promoteur du paysage dans l'estampe. Dans l'estampe, parce que vous avez vérifié quelque chose, que jusqu'à présent, ce que je vous ai présenté, dans l'estampe japonaise, bah, ce ne sont que des personnages, en fait. Hein. C'est typique de l'ukiyo-e, ça, des personnages. Hein. La vie pittoresque des Japonais, le spectacle hein, pittoresque hein, et anecdotique de la vie japonaise. Mais là, tout d'un coup, il y a quelque chose de nouveau qui se produit. Hein, dans l'ukiyo-e, hein, on intègre le paysage. Alors voilà donc le grand promoteur, Katsushika Okuse, qui est un peintre d'origine paysanne. On a dit, et on l'a dit à tort, bien sûr, enfin là je pense que vous le comprendrez à l'issue de ce chapitre hein, sur le Japon, après tout ce qu'on a dit sur la peinture japonaise depuis l'époque Heian, on a dit que l'art de Okuse s'inspirait des gravures hollandaises importées d'Europe et qui s'appliquaient à l'étude de la perspective et du clair-obscur des écoles européennes. C'est faux. C'est entièrement faux. Donc si vous le retrouvez, ça, quelque part, parce que parfois on le trouve dans des commentaires, mais ce sont bien sûr les commentaires que font les Occidentaux à propos de l'estampe japonaise et de Okuse, hein, des Occidentaux qui n'acceptent pas l'idée, finalement, qu'il y avait, depuis l'époque Heian, c'est-à-dire 10e siècle de notre ère, une tradition au Japon de l'illustration profane. Totalement profane, et des paysages qui étaient déjà effectivement tout à fait pertinents. C'était vrai en Chine, c'était vrai au Japon. Voilà, alors donc non, il ne faut pas partir du principe, pas du tout, c'est même le contraire, que il s'est inspiré ici des paysages hollandais, hein, des paysages néerlandais. Non, certainement pas. Bon. Alors, il retrouve ici une vieille tradition du paysage qui existe en Extrême-Orient, en Chine comme au Japon. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, grâce à Okuse, l'estampe de paysage connaît un remarquable essor, et surtout au XIXe siècle. On peut citer des séries, la série des vues étonnantes des ponts à travers toutes les provinces, c'est le titre d'une série. Bon, 1803, ça a été publié en 1803 par Okuse. Vous connaissez tous les 36 vues du mont Fuji, à laquelle série appartient cette vue que vous avez justement ici, sous la grande vague au large de la côte à Kanagawa. Et il y a encore les grandioses 100 vues du mont Fuji, que Okuse a publié l'année suivante en 1834. Ce sont tous ces dessins-là, enfin, ces estampes, hein, ces estampes, ce sont des chefs-d'œuvre de dessin, des chefs-d'œuvre de composition, des chefs-d'œuvre d'impression, parce que l'impression est colorée, c'est bien du Nishikie. Alors, par ailleurs, je vous rappelle, parce que c'est peut-être déjà le moment de le dire, que ces gravures d'Okuse ont été présentées à l'Exposition universelle de Londres en 1862, à celle de Paris en 1867. Il y avait dans ces expositions universelles un pavillon japonais, on y présentait les estampes d'Okuse. Et bien sûr, ces estampes ont fait sensation, ce qui explique pourquoi les Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec ont été de très grands collectionneurs d'estampes japonaises et se sont très largement inspirés de ces estampes japonaises. Mais là, j'anticipe sur le cours de la semaine prochaine. D'accord ? Le cours de la semaine prochaine est un retour en Occident, un retour obligé en Occident parce que donc la meilleure peinture qui continue l'ukiyo-e au Japon, c'est la peinture impressionniste. Hein, donc c'est-à-dire que si on veut donner un développement à la peinture, enfin à l'estampe, si vous voulez, de Hocusé, c'est l'impressionnisme, c'est le post-impressionnisme, c'est la peinture de Matisse, c'est l'art contemporain, si vous voulez. Donc il faudra effectivement faire un retour en Occident comme ça. Donc là j'anticipe un peu sur le cours la semaine prochaine, hein, qui sera une redite là aussi d'ailleurs, hein, mot pour mot, virgule pour virgule, hein, je referai exactement le cours que j'avais fait il y a quelques années de ça. Alors Hocusé, parlons de Hocusé. Donc, et parlons de la manga, d'Hocusé, de Katsushika Hocusé. Vous avez ici cette date de vie de mort. On remarque qu'il a vécu longtemps. Ici, un autoportrait, peut-être, peut-être pas. Si ça n'est pas de lui, alors c'est de sa fille. Sa fille était donc un génie du dessin. Donc, elle dessinait très bien. Et donc là, on peut très bien imaginer que plutôt que ça soit donc de la main de Hocusé, ce serait de la main de sa fille. Alors on ne sait pas, hein. En fait on n'a jamais réussi à déterminer qui avait fait ce portrait, si c'est lui ou si c'est sa fille. Hein. Bon alors on peut commencer par le mot japonais manga, que vous pouvez écrire comme ça, ou plus simplement, donc G-A, ou que vous pouvez aussi écrire G-W-A, mais attention, quand vous l'écrivez comme vous l'avez ici, en lui donnant ce genre féminin, et puis si vous l'écrivez plutôt qu'avec le U-U-A, W-A à la fin, dans ce cas vous faites référence aux grands auteurs du 19e siècle, hein, nos auteurs à nous, à commencer par Edmond de Goncourt qui utilisait ce mot manga en l'écrivant comme ça et en le mettant donc au féminin. Il aurait pu choisir le masculin, manga, hein, mais donc il a choisi le féminin. Et donc moi je pense qu'en France on doit respecter le féminin, hein, on doit dire la manga parce que c'est une référence à nos auteurs à nous qui ont introduit le mot en France, dans le vocabulaire français, et l'ont introduit dans le genre féminin. Ils auraient pu le faire dans le genre masculin, mais l'ont introduit dans le genre féminin. Et donc je pense qu'il faut respecter ça en France. Et d'ailleurs, de plus en plus, on revient aujourd'hui, parce que bon, la manga, c'est quelque chose de très répandu, surtout auprès des jeunes aujourd'hui. Les jeunes lisent beaucoup de mangas, mais disent souvent le manga. Et aujourd'hui, il y a une petite inversion qui se produit, hein. Donc à force, effectivement, on revient donc au genre féminin, la manga. Bon, donc c'est un mot japonais, manga, vous retrouvez ga, hein. Donc c'est souvent traduit par image dérisoire, hein, manga, image dérisoire, ou dessin non abouti. Effectivement, le mot japonais, manga, est composé du ga, que vous connaissez, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui désigne la représentation graphique, et de man. Man, M-A-N, signifie en japonais involontaire, divertissant, sans but. Donc ce serait une image involontaire, divertissante, sans but, sans aucun but. Mais on peut traduire aussi le man de manga par exagéré, débordé. Et donc on pourrait interpréter manga comme une caricature. Vous voyez, donc exagéré, débordé. On a débordé de la réalité, donc on tombe dans la caricature. Donc ça peut aussi se traduire comme ça. Hein. Bon, on peut aussi le traduire au fil de l'idée. C'est-à-dire, effectivement, c'est une représentation graphique au fil de l'idée. L'artiste n'a pas d'idée préconçue. Il suit son idée, au fil de l'idée. Bon, manga, bon, bah alors on peut, pour résumer un peu les choses, le traduire comme ça, dessin au trait libre, esquisse au gré de la fantaisie, image malhabile, et c'est pourquoi l'élite japonaise ne la supporte pas, cette image, hein, cette manga. Bon, ou tout simplement caricature, grotesque, et là dans le sens de Léonard de Vinci, puisque c'est à la Renaissance que l'on voit se développer la caricature et les grotesques. Et sinon j'insiste, la première utilisation du mot en français revient à Edmond de Goncourt. Et Edmond de Goncourt, en 1895, dans une étude artistique qui est dédiée à cet artiste, Hocusé, va accorder manga au féminin. Je le redis, il aurait pu l'accorder au masculin, mais il a fait un choix. Il l'accorde au féminin pour désigner ce qu'il appelle la manga de Katsushika Okuse. Et il écrit manga en faisant là par contre une faute, hein, parce que Ga c'est G-A, donc, mais il écrit G-U-A ou G-W-A. Ça c'est Edmond de Goncourt. Bon, alors parlons de l'artiste. Maintenant que l'on va entrer dans la manga donc de l'artiste. Hein. Parlons de l'artiste. Okuse, ça tombe bien, a été formé à l'école de Katsukawa. Katsukawa, vous vous rappelez ? Shunsho Katsukawa. On en a parlé la semaine dernière et on vient de le retrouver là à l'instant avec des portraits d'acteurs. Souvenez-vous le triptyque, portrait d'acteurs. Bon, Shunsho Katsukawa. Donc effectivement, il a été formé par ce maître qui lui produisait une estampe qui correspondait au goût du moment, des personnages, des bijins, des acteurs de théâtre ou encore des scènes comme celle-ci. Souvenez-vous, on l'avait présenté la semaine dernière, ces offrandes qui sont faites à l'occasion des noces d'une jeune fille. Donc il est allé à l'école de Shunsho Katsukawa, dont vous retrouvez ici les références, hein. Bon, il est mort en 1792, et il décide, Okuse, de quitter cette école de Katsukawa en 1794. Et la période qui s'ouvre pour Okuse, donc dans sa carrière, à partir de 1794, quand il quitte cette école, la période qui s'ouvre est considérée comme celle de l'autonomie artistique. Les spécialistes d'Okuse ont pour habitude de dire que la période de l'autonomie dure à peu près 10 ans, de 1794 à 1804. N'oubliez pas, il est d'origine paysanne. Il n'a aucun moyen, hein, aucun revenu, aucun moyen. Donc il doit se débrouiller par lui-même dès qu'il est sorti de cette école de Katsukawa. Il doit trouver des mécènes, des commanditaires, des gens qui lui commandent des estampes, hein, puisqu'il a été formé dans ce métier. Bon, et ça lui prendra plutôt dix ans pour obtenir donc une autonomie artistique et faire à peu près ce qu'il veut, mais ça sera quand même très très difficile. Bon, nous sommes à Edo, hein, bien sûr, Katsukawa. Okuse est un artiste d'Edo. Edo, c'est la capitale, elle est dynamique, et là, Okuse se lie avec les cercles littéraires de poètes amateurs. Donc on sait qu'il y a un lien étroit entre la littérature et l'illustration depuis l'époque Heian, donc c'est très naturellement que Okuse se tourne vers ces poètes, des poètes qui avaient l'habitude de produire des eke, ces brefs poèmes de 17 syllabes qui étaient généralement illustrés. Bon, alors donc il se tourne vers ces poètes amateurs qui sont aussi compositeurs de kiyoka. Les kiyoka sont des poèmes d'esprit humoristique. C'est pour dire qu'il y a de quoi faire. Donc un graveur comme Okuse, auprès des écrivains, auprès des poètes, a de quoi faire. Donc c'est une habitude, illustrer leurs petits poèmes, que ce soit des kiyoka ou que ce soit des eke. Alors bon, ces auteurs sont susceptibles de commander des estampes raffinées pour illustrer leurs œuvres. Ils vont se tourner vers Okuse parce qu'il a du talent, et c'est comme ça qu'il commence donc à prendre son autonomie, à se faire reconnaître, à avoir un nom, si vous voulez. Hein. Ça dure 10 ans, là, 1794-1804. Alors on peut donc illustrer cette période. Hein. Par exemple, c'est au cours de cette période qu'il va créer un ensemble d'illustrations, donc bon, pour un récit, c'est bien un récit, hein, c'est un récit de voyage, si vous voulez, voyage d'agrément vers l'Est, c'est un album de kiyoka. Vous voyez, vous retrouvez là le mot kiyoka. Kiyoka, ce sont des petits poèmes, c'est pas très long, plutôt humoristique. Les eke, c'est très mécanique. Et eke, on l'avait vu la semaine dernière. Donc c'est très mécanique, c'est 17 syllabes. Là, c'est un petit peu plus libre, mais humoristique. Bon. Et donc, effectivement, Voyage d'agrément vers l'Est, c'est un ensemble de poèmes, donc de kiyoka, et il a reçu une belle commande. Ici, il s'agit pour lui d'illustrer ses poèmes. 1799, hein, Voyage d'agrément vers l'Est. Et alors il va finalement illustrer dans ce recueil des sites célèbres d'Edo. Donc il s'arrête sur des sites célèbres d'Edo qu'il va représenter, comme vous l'avez ici par exemple. C'est ce qu'on appelle le Meisho-e. le Méchoé. On l'avait vu ça déjà, Méchoé, on l'avait dit, hein, à propos des pérégrinations du moine Ipen, qui est un très très beau rouleau, un Nemaki, un rouleau horizontal du temps des Kamakura, c'est-à-dire donc 13e siècle, fin du 13e siècle. On avait dit, attention, le peintre qui fait ça fait référence au Méchoé, vous l'avez ici, l'orthographe Méchoé, et Méchoé c'est un genre très important de l'art et de l'art pictural donc au Japon. Il s'agit de représenter des sites célèbres japonais. Hein, voilà. C'est un genre qui existe depuis l'époque Heian. Donc c'est très très loin ça dans le temps. Vous voyez, on n'a pas attendu, je ne sais pas, donc les Hollandais ou je ne sais qui, pour que Okuse commence à s'intéresser à des paysages et à des sites célèbres hein, du Japon. Voilà, donc c'est un vieux genre artistique au Japon, le Méchoé. Site célèbre de Nobedo. Et donc, il va faire quelque chose d'incroyable dans cette publication, à travers ses estampes. Il va rendre les aspects fugitifs de la nature, comme ici la pluie, formidable, ou encore les mouvements des personnages, leurs attitudes fuyantes, comme il pleut, bon, ben, ils ont des attitudes, des expressions qui s'adaptent au climat, donc aux conditions, donc à la pluie, si vous voulez. Et donc, il va restituer ça avec une virtuosité incroyable, grâce à un dessin nerveux. Mais il me semble que ça va plus loin encore, déjà, hein, donc les qualités donc, de Okuse, il a le sens du cadrage, un cadrage moderne, un cadrage décalé, hein, comme on le verra plus tard dans la photographie, par exemple, ou le cinéma. Et quand on se rapproche de ces personnages et de l'effet de pluie, c'est merveilleux. Parce qu'encore une fois, c'est quoi? C'est avec rien, mais ça suffit largement. On n'a pas besoin d'un sfumato élaboré pour créer une atmosphère. Enfin, on le voit bien. Bon, c'est brillant, c'est vraiment très très brillant. Alors bon, donc ça ce sont déjà les qualités de Okuse, et je vais insister sur un point, malgré la contrainte de la commande, parce que c'est une commande qu'il a reçue, et la contrainte c'est illustrer les sites célèbres d'Edo, d'accord, donc c'est du Méchoé, c'est la contrainte, il fait le choix de sujets anodins, donc c'est-à-dire des paysans qui empruntent un chemin sous la pluie, et qui se rendent effectivement dans un lieu célèbre de la ville d'Edo. C'est ça qui est intéressant, c'est l'anecdote, il prend le parti de l'anecdote, de l'ukiyo-e, si vous voulez. Bon. Et au fil de ces représentations anecdotiques, si on avait à feuilleter cet album, il brosse un portrait complet de la vie au Japon dans la première moitié du 19e siècle, parce qu'il va répéter ce genre de travail. Hein. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il est extrêmement intéressant. Donc on a ici une illustration incomparable du Japon. Première moitié du 19e siècle, à ça on peut ajouter d'autres choses. Par exemple, il illustre, parallèlement à ses albums qu'il publie, il illustre des feuilles indépendantes qu'on appelle surimono. Le surimono, c'est une feuille, comme vous l'avez ici, indépendante, accompagnée inévitablement d'un court poème. Vous avez le poème qui est ici, hein, je ne sais pas ce qu'il dit, le poème, mais enfin c'est typique effectivement du surimono. Et ces images servaient de calendrier, de carte de vœux, ces images qui sont des estampes bien sûr, hein, étaient échangées lors d'occasions spécifiques, telles par exemple les anniversaires, le nouvel an. Bon. Et quant aux qualités propres à Okuse, vérifiez-le, l'économie de la ligne, il était économe en moyens, la composition asymétrique, c'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure en disant le point de vue décalé. Donc du même coup, composition asymétrique, l'annotation suggestive, mais ça ne manque pas d'humour. Remarquez que sur le miroir se reflète non pas le visage de la Bijin, mais plutôt le masque du théâtre No. Vous avez ici un beau masque de théâtre No qui est accroché effectivement, ce qui suggère d'ailleurs une grande tradition. On voit bien qu'il est sorti de l'école de Katsukawa, c'est-à-dire donc la tradition des acteurs de théâtre, des Bijin, hein, mais qu'il va réviser un petit peu, il revoit un petit peu ce genre, qui avait eu tant de succès au XVIIIe siècle, et il propose quelque chose qui est humoristique, finalement. Oui, il est brillant, bon, Okuse, c'est brillant. Hein, des surimono, il en a fait beaucoup, des surimono. Alors justement, l'une des innovations majeures de l'ukiyo-e, qu'on ne doit pas d'ailleurs à Okuse, mais Okuse l'a bien illustré, donc l'une des innovations majeures de l'ukiyo-e, c'est ce que l'on appelle la nature morte, ce que nous appelons en Occident la nature morte. Hein. qui existe là dans ce cas en Occident depuis longtemps, et qui va donc voir le jour dans le cas de l'ukiyo-e au Japon. Donc c'est un genre pictural que rend une expression japonaise que je vous donne, parce que vous allez voir, la traduction est intéressante, la traduction japonaise, donc le nom japonais donc, de ce genre pictural, c'est Sebutsu Ga, Ga, bon, c'est ce que ça signifie, Ga, donc Sebutsu Ga, littéralement, peinture d'objets calmes, tranquilles. Hein, c'est le terme que les Japonais ont choisi pour désigner nature morte. Et ça, c'est quand même intéressant de le dire, parce qu'ils n'ont pas emprunté aux Occidentaux une appellation qui serait nature morte, par exemple. Ils ont leur propre appellation, peinture d'objets calmes, tranquilles. Donc, Sebutsu Ga, c'est en fait la nature morte japonaise. Hein, très largement diffusée par Okuse, très largement diffusée par les élèves d'Okuse. Okuse a eu beaucoup d'élèves. Parmi ces élèves, j'en cite un sur lequel je ne m'arrête pas, Yashima Gakute. Voilà, là c'est typique ça, hein, de la nature morte du Sebutsu Ga, donc de la nature morte japonaise, hein, vraiment typique. Toujours un surimono, plutôt vertical, mais ce n'est pas tout à fait le kakemono. Et donc un petit poème, bien sûr, accompagnant l'ensemble, typique. Ça c'est typique des commandes que reçoivent ces maîtres de l'estampe japonaise. Et ça va durer, ça va durer. Ça va durer très très longtemps pour Katsushika Okuse. C'est-à-dire, ça dure jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 70 ans. Et quand il atteint l'âge de 70 ans, là, il se sent suffisamment libre, hein, donc pour dépasser ses commandes. Hein, c'est-à-dire que dans la première partie de sa vie, si vous voulez, il a répondu à des commandes. Il a été soumis au goût des Japonais. Les Japonais aimaient ce type de représentation, que ce soit des bijin, que ce soit donc des natures mortes, ces courts poèmes que j'évoquais qui sont illustrés. Enfin, c'est ce qu'aimaient les Japonais. Et à l'âge de 70 ans, il s'oriente différemment, hein, c'est-à-dire qu'il peint ça, enfin il peint, il publie, hein, si vous voulez, ce genre d'estampe-là. Bon. C'est-à-dire qu'on retrouve les 36 vues du Mont Fuji. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il a déjà 70 ans quand il publie les 36 vues du Mont Fuji, ce qui fait la célébrité de ce grand maître, 70 ans. Et donc à 70 ans, Okuse innove en déclinant la thématique des vues du Mont Fuji. Bien sûr, c'est du Meishō-e, ça existe depuis l'époque Heian, le Meishō-e, les vues des sites célèbres au Japon. C'est vieux, bon, mais il va innover en déclinant. Il nous propose des variations sur un même motif. C'est ça, l'innovation. Bon, et remarquez d'ailleurs les risques qu'il prend, Okuse. C'est extrêmement risqué. Le grand risque que prend l'auteur, c'est celui de la répétition, de créer une série monotone, c'est-à-dire de lasser. De lasser le lecteur, de lasser celui qui apprécie effectivement ses gravures. Donc il fait quelque chose que personne avant lui, personne au monde avant lui n'avait fait, c'est-à-dire des variations sur un même thème, un même motif, le Mont Fuji. Mais après Okuse, il y en a combien qui vont reprendre cette idée de la variation sur un même motif? Pensez à Monet. Et oui, ça on le verra la semaine prochaine. Hein. Donc Monet, bon, ben Monet reprend donc l'idée de Okuse, évidemment décliner une thématique. Hein, bon, alors il crée des variations sur un même motif, et cette publication à risque a beaucoup de succès, si bien qu'il la suit, la fait suivre d'une autre publication que j'évoquais tout à l'heure, les 100 vues du Mont Fuji, hein, parce que ça a eu du succès. Des 36, il passe aux 100 vues. Bon, mais au-delà de tout ça, on a quelque chose qui est infiniment spirituel, qui est encore et toujours, si vous voulez, dans le ton de la spiritualité de l'Extrême-Orient, que vous soyez en Chine ou au Japon. Après tout, ne sommes-nous pas revenus à un paysage? N'a-t-on pas dit déjà plusieurs fois que le paysage est l'espace de la bouddhéité, que dans le paysage où il y a une montagne, hein, donc il y a des symboles très forts qui s'imposent. Et donc il faut bien voir là une quête spirituelle d'un artiste qui est arrivé au sommet de son art. Il a 70 ans, il n'a plus rien à démontrer à personne, et il décide de faire un voyage. Ça c'est tout à fait ça, si vous voulez, dans le ton de l'extrême-orient, pas seulement l'extrême-orient, en Inde. Donc le but ultime de la vie donc d'un indien de la classe supérieure, c'est-à-dire de la classe des brahmanes, et mieux encore de la classe des satriyas, c'est-à-dire la classe des guerriers, de l'aristocratie guerrière. Le but de la vie, c'est surtout pas d'avoir une Rolex. C'est même tout le contraire. Le but de la vie d'un membre de la classe supérieure en Inde, c'est le renoncement. C'est renoncer à tout. Hein, donc, c'est-à-dire renoncer, c'est renoncer à tous ses biens, donc à tout ce que l'on a. Et puis partir, ça c'est le grand thème du Mahabharata qu'on retrouve aussi dans le Ramayana. C'est-à-dire partir dans la forêt. Et puis donc là on vit dans le dénuement le plus complet, alors qu'on a été un grand prince. Mais c'est l'objectif, si vous voulez, donc de ces gens-là. Donc c'est vrai en Inde, c'est vrai en Chine, c'est vrai au Japon. Et donc il faut bien voir ce que fait Okuse. C'est un voyage. Il va faire un voyage tout autour du mont Fuji. Donc un voyage qui sera long, qui est une quête spirituelle. Il voyage pour saisir les points de vue les plus suggestifs de la montagne. De la montagne, entendons-nous bien, divinisée. Le mont Fuji au Japon appartient au vieux fond animiste. La montagne appartient au shintoïsme. Hein, c'est une montagne qui a beaucoup, beaucoup de valeur, bien sûr, dans le shinto au Japon. C'est le vieux fond animiste. Donc elle est, la montagne, elle est vivante. Elle est animée par un esprit, bien sûr. Hein, c'est une divinité, cette montagne. Hein, bon, donc c'est bien une quête spirituelle de Okuse autour de cette montagne. Et il va saisir les points de vue qui lui semblent les plus suggestifs de la montagne en question. Ces estampes sont imprimées en bleu de Prusse. Il faut le remarquer parce que c'est un pigment synthétique qui est importé massivement au Japon à partir de 1829, pas avant 1829. Donc remarquez qu'il est à la pointe techniquement, donc dès l'apparition du bleu de Prusse au Japon, il l'utilise, et ce bleu de Prusse va succéder à un bleu d'origine végétale qui était plus fugace et qui l'intéressait moins. C'est pour ça qu'il adopte le bleu de Prusse. Et donc il peut créer ses variations sur un même motif vu du même endroit, mais à un moment différent. C'est-à-dire que ça va plus loin. Hein, donc il peut répéter le même point de vue. Mais seulement il attend. Il attend que l'atmosphère ait changé, que les impressions donc colorées soient différentes, comme par exemple ici. Remarquez bien comment on passe du Fuji rouge au Fuji bleu. Oui, mais ce n'est pas le même moment. Donc c'est un jour après ou un jour avant qu'il a fait. Bon, et puis ce n'est pas la même heure de la journée. Donc c'est peut-être le matin ou peut-être le soir. Hein, il va jouer comme ça, et là c'est déjà la peinture de Monet. Hein, Monet qui joue constamment comme ça sur les heures de la journée. Vous voyez le Fuji rouge et le Fuji bleu, et ainsi de suite. Hein, je n'ai pas passé en revue les 36 vues du mont Fuji, encore moins les 100 vues du mont Fuji. Enfin, vous avez compris le principe. Hein, et c'est brillant, bon, c'est brillant, c'est incroyable. Okuse, il a 70 ans quand il innove comme ça. Je vous embête avec mes histoires, parce que c'est une redite, hein, je sais bien que c'est une redite. Tout ça, j'ai déjà dit, tout ça, hein, j'ai déjà fait le cours. Hein, à la virgule près, j'ai déjà fait plusieurs fois d'ailleurs, hein, donc ici à Cestas. Hein. En voici d'autres, je vais en présenter quand même quelques autres, mais enfin, pas beaucoup d'autres. Donc le col de Mishima dans la province de Kei, ça fait toujours partie des 36 vues du mont Fuji. Et là, remarquez au premier plan, des pèlerins. Voilà, on a ici trois pèlerins, enfin je vais agrandir parce que là on le voit mal quand même, j'agrandis, voilà. Donc des pèlerins qui sont au pied d'un arbre et qui, adorent l'arbre. C'est encore du shintoïsme ça, hein, c'est-à-dire c'est l'arbre divinisé, c'est l'arbre qui est animé, si vous voulez, par un esprit, et donc on va faire une offrande, on peut laisser un petit bout de papier, on peut faire un autre petit peu d'offrande, si vous voulez. Et donc ça fait dire que là, la route sur laquelle se trouve Okuse, à ce moment-là, quand il a cette vision, cette route est empruntée par des pèlerins. Alors on les voit derrière l'arbre, à droite, mais autour de l'arbre, ils ont déposé leur ballot et font une offrande et adorent donc l'arbre. Ensuite, plastiquement, mais quelle qualité! Comment cet arbre vient découper la composition en deux parties inégales? Et c'est dans la petite partie à droite que l'on a la perspective sur le mont Fuji. Et à gauche, rien, un vide. C'est merveilleux, ce type de composition. Enfin, il faut imaginer le choc quand les impressionnistes voient ce type d'image, arriver là en Occident. Enfin, c'est un choc, c'est bouleversant pour eux, évidemment. En voici d'autres. Hein, bon. Donc le lac Suwa dans la province de Shinano, là aussi, même chose, même impression, c'est-à-dire donc un arbre qui va découper la composition, mais en différentes parties qui ne sont pas égales, et ça crée donc une composition asymétrique, un point de vue décalé, extrêmement moderne, bien sûr. Ensuite, il y a plus de qualité que ce que je dis, bien sûr. Par exemple, il n'y a pas fondamentalement de différence entre le traitement du ciel et de l'eau. Ou pour le dire autrement, c'est avec rien que le lac est représenté. Rien, vous savez ce que ça veut dire, c'est avec le vide, c'est-à-dire le blanc de la feuille, si vous voulez, hein. Il n'y a rien là, et ça suffit quand même à suggérer quelque chose. Donc ça vient de Chine, oui, c'est une vieille tradition picturale qui vient de Chine, et que les Japonais ont très très tôt maîtrisé. Très beau ça aussi, hein. Le lac Suwa dans la province de Shinano, c'est une beauté. Ou alors Ejiri, c'est dans la province de Suruga, et Ejiri, bon, c'est merveilleux. Ejiri-juku, c'est la 18e des 53 stations d'un axe de circulation qui est le plus célèbre au Japon. C'est celui qui va de la cité impériale Kyoto à la cité d'Edo, donc Tokyo, de Kyoto à Tokyo. Vous avez un axe de circulation qui est appelé le Tokaido, et il y a 53 stations sur cet axe-là, et là justement, Ejiri, c'est une des 53 stations, c'est la 18e des 53 stations de cet axe-là, dans la province de Suruga, au Japon. Et là, ce qui m'intéressait, bon, je passe sur la composition, elle est brillante, encore une fois, asymétrique, un arbre pour découper la composition, enfin deux arbres, pour découper la composition, mais en deux parties inégales, comme par hasard le mont Fuji, qui ici se réduit à un graphisme, un simple trait, est pris dans la partie gauche de la composition, la plus étroite, et c'est comme ça qu'il arrive à suggérer la force du vent, en décalant la composition. Vous voyez, son point de vue, donc, en fait, il rejette tout à gauche, ce qui va donner une force au vent. C'est merveilleux. Avec si peu de choses, une telle économie de moyens, il arrive à suggérer le vent. Alors le vent, oui, c'est suggéré donc comme ça par la composition, donc bien sûr, qui nous oblige à faire une lecture de gauche à droite, c'est-à-dire qui suit, si vous voulez, le vent, mais il y a d'autres moyens en s'approchant. Alors, par exemple, donc ils portent leurs mains à leur chapeau pour pas qu'ils s'envolent. Mais, vous l'avez vu, il y a un chapeau qui s'est envolé, là, quelque part, là, je ne sais plus où il est. Là, on le voit, là, le chapeau qui s'est envolé. Ou les feuilles, bien sûr, pauvres, alors on ne sait pas qui c'est, donc écrivain, poète, enfin, on ne sait pas qui avait dû réaliser une œuvre splendide, et malheureusement, toute son œuvre s'envole, là. Ou encore, c'est les roseaux, c'est les feuilles de l'arbre, qui s'envolent. Et ça suffit, pour suggérer la force du vent. C'est incroyable, c'est impressionnant. Voilà, alors ensuite, on peut changer, là. Donc là, on quitte les 36 vues du mont Fuji, on évoque une autre série, bon, qui est appelée, bon, symboliquement, 1000 images de la mer. Là, ce qui m'intéressait dans cette image-là, c'est le motif du bateau qui, cette fois-ci, découpe la composition. Tout à l'heure, c'était l'arbre, maintenant, c'est le bateau. Donc, composition toujours asymétrique, point de vue décalé, et il retient le dynamisme de la courbe du bateau. Effectivement, la courbe ici est extrêmement dynamique. Ensuite, quel effet qu'il donne au carrelé ? On a, enfin, sorte de carrelé, si on veut. On a ici un pêcheur qui, dans son bateau, est en train de tirer son filet, de retirer son filet, donc de l'eau, sorte de carrelé. Et il a créé un effet visuel de transparence, si vous voulez, qui est vraiment fantastique. Hein. C'est très beau, hein. Ah, c'est très beau, hein, l'estampe d'Okuse, c'est vraiment très beau. Ici, Chosy, dans la province de Chiba, Ça, ça fait partie des 1000 images de la mer, justement. Là, ce que j'apprécie, moi, personnellement, c'est cette intrication de lignes courbes, c'est-à-dire des lignes qui correspondent au bateau, au pluriel, à la vague, aux vagues, hein, là aussi au pluriel, mais il y a aussi des rochers, donc les bateaux risquent de s'écraser sur les rochers, bien sûr. Bon, donc une intrication de lignes courbes qui fait disparaître l'horizon, pas d'horizon, ici. Merveilleux. Et puis... il connaît ceux qui l'ont précédé, donc il n'hésite pas, Cusé, à rendre hommage aux plus grands artistes qu'il apprécie énormément, mais qui l'ont précédé. Alors notamment un artiste chinois qu'on avait évoqué, qu'on n'a pas manqué effectivement d'évoquer dans le chapitre sur la Chine. Hein, donc il va faire une publication là, qui est aussi très très célèbre, c'est toujours Cusé bien sûr, le miroir des vers chinois et japonais. Vous voyez, c'est pratiquement contemporain des 36 vues et 100 vues du mont Fuji. Et là vous retrouvez un portrait, alors bien sûr décalé, qu'il fait d'un poète chinois, c'est plus qu'un poète chinois, le fameux Su Dongpo qu'on avait évoqué. Un taoïste du XIe siècle. On l'avait évoqué hein, dans l'histoire de la peinture chinoise, on avait évoqué bien sûr Su Dongpo. Mais c'est un taoïste, hein, un taoïste, mais voilà, brillant, qui a une ouverture d'esprit incroyable, Su Dongpo. Donc voilà, vous l'avez là ici. Donc il est à cheval, de dos, dans un paysage enneigé, qui est superbe. Et voilà, c'est un hommage qu'il rend à ce chinois, Su Dongpo. Su Dongpo, hein, je vous rappelle hein, ce qu'il peignait, Su Dongpo. Su Shi ou Su Dongpo. C'est vieux, hein, vous voyez, donc. Il est mort en 1101, Su Dongpo, hein, donc c'est 11e siècle, quoi, début 12e, si vous voulez. Donc c'était un spécialiste des bambous, hein, de l'encre sur soie, donc avec des lavis d'encre et un jet qui est littéralement calligraphié, et donc c'était un spécialiste des bambous. Je ne voudrais pas refaire l'explication du sujet, mais enfin, et du personnage, hein, parce que Su Dongpo, c'est un mandarin, hein. C'est un homme politique, hein, c'est un mandarin de l'époque Song, qui est un homme mais brillant, sur le plan culturel, littéraire, etc. C'est un grand lettré, un grand calligraphe, mais qui avait pour souci de faire la synthèse du confucianisme, du taoïsme et du bouddhisme Shan en particulier. C'est pour ça d'ailleurs hein, que Cusé lui rend hommage. Le Shan en Chine devient le Zen au Japon. On le sait. Et donc les bambous, les rochers, les vieux arbres étaient le sujet de prédilection de Su Dongpo. Mais parce que ça a du sens. Rappelez-vous, le bambou incarne la sobriété et la permanence en dépit des pires circonstances. Ces pires circonstances que malheureusement Su Dongpo a vécues en son temps. Et donc le bambou symbolise le lettré, élégant mais ferme. Il plie mais il ne cède jamais. Donc ça a beaucoup de sens hein, pour Su Dongpo. Et pour le reste, je vous renvoie donc à ce qu'on avait dit hein, sur Su Dongpo dans le chapitre sur la Chine. On revient à Cusé, et voici un format qui, là aussi, allait beaucoup impressionner les artistes impressionnistes ou réalistes, comme Manet. Édouard Manet a été très très impressionné par le format éventail. Ushiwa-e, voilà, et c'est donc ici, bien sûr, de l'ukiyo-e, enfin, nishiki-e plus précisément, c'est de la gravure colorée, enfin, de l'estampe, hein, bien sûr, c'est Cusé, de carpe, voilà, je n'ai pas de commentaire à faire, le plaisir des yeux, quoi, disons, hein, le plaisir des yeux. Dans le même genre, c'est toujours d'ailleurs un éventail, faisant et serpent, marquait toujours cette intrication des lignes, si bien qu'à un moment donné, le corps du serpent se perd et se confond avec les plumes du faisan, ou la queue du faisan. Mais on arrive à suivre, hein. On arrive à suivre la queue du serpent jusqu'au bout, c'est-à-dire ici, la queue qui rejoint la tête du serpent, allusion peut-être à Ouroboros. Très fort, hein, là aussi. Toujours ces décalages dans la composition, c'est merveilleux. Cette composition asymétrique, ici, c'est un faucon en vol, ce qui permet de rappeler que ces artistes, mais tous hein, au Japon, sont soucieux de l'observation de la nature. Ils partent toujours d'une observation de la nature. Ensuite, ils restituent la nature avec des variations, des différences, c'est-à-dire qu'ils vont synthétiser, simplifier, parfois géométriser, tout un travail donc, artistique qu'ils font. Faucon en vol, donc, ici, dans la série des grandes fleurs, c'est une série hein, qu'il a laissée, chrysanthème et thon, Remarquez que passé 70 ans, il en publie hein, des recueils. Hein. Série des grandes fleurs, on va rester un peu dans cette série des grandes fleurs, avec cette fois-ci Iris et Sauterelle. Toujours ce jeu d'intrication de lignes, de formes, si bien que la Sauterelle, bon, n'apparaît pas au premier coup d'œil. Il hein. faut la chercher un petit peu, mais on la trouve, hein, on la trouve. Hein. Plus difficile, Volubilis et Renette, toujours dans la série des grandes fleurs. Volubilis et Renette. Plus facile maintenant, donc Martin Pêcheur, Œillet et Iris, là c'est plus facile, mais il y a toujours quand même ce jeu. Donc de, alors d'abord, décalage de la composition, hein, donc la composition est décalée à gauche, on voit ça très bien. Ça s'ouvre sur la droite avec toujours ce jeu de vide et de plein, et puis donc intrication de lignes, notamment ces courbes du feuillage avec le plumage du Martin Pêcheur. Toujours un petit texte qui accompagne. On pourrait résumer hein, les caractéristiques formelles de ces gravures d'Ocuzé qui ont suscité l'admiration des artistes français, ce qui est déjà une façon d'introduire le cours la semaine prochaine, si vous voulez. Donc, parmi les caractéristiques formelles de ces gravures, la qualité synthétique et expressive de la ligne qui contourne délicatement les figures et les objets, mais encore, parmi ses caractéristiques formelles, donc ses qualités finalement d'Ocuzé, l'éclat de la lumière, les teintes lisses, plates, sans ombre, pas de modelé, bien sûr, l'étude du geste arrêté à mi-chemin, ça aussi c'est une grande qualité hein, chez Ocuzé, qu'il doit d'ailleurs à Soudhongpo. J'ai pas pensé à l'évoquer quand on avait le bambou sous les yeux donc, de Soudhongpo, donc c'est-à-dire ce geste arrêté à mi-chemin. C'est un lavis d'encre, mais ce qui est très très fort, c'est que le lavis d'encre concerne un contour, un trait. Le trait est un lavis d'encre, comme si le geste s'arrêtait à mi-chemin. Voilà. Mais c'est brillant là, il faut être vraiment très entraîné hein, pour faire ce genre de travail. Et parmi toujours ces qualités d'Ocuzé, le décentrage du sujet hein, que reprendront les photographes ou dans le cinéma, on retrouvera ça dans le cinéma, l'économie de moyens mise en œuvre pour exprimer donc le sujet lui-même, donc il est économe en moyens, ça on l'a dit, on l'a vu, l'habileté à capter les variations et les effets fugitifs de l'atmosphère, pensez au vent tout à l'heure, à la pluie que l'on a vue, les points de vue insolites qu'il va multiplier, enfin, etc., autant de qualités qui ressortent dans l'estampe d'Ocuzé. Et puis, l'attention, je parle des impressionnistes qui ont été fascinés donc, par d'autres points. Donc, l'espace est suggéré en plaçant les objets les uns derrière les autres, comme ici, par exemple, pour le Martin Pêcheur qui est juste derrière donc, la feuille. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de perspective. En tout cas, il n'y a pas de perspective à la manière occidentale, à la manière léonardesque, mais ça fonctionne quand même, ça fonctionne comme si c'était une perspective. Et ça, effectivement, ça allait fasciner les artistes occidentaux. Hein, bon, alors, avant donc de découvrir ces artistes occidentaux, il faudra quand même pas passer par Hiroshige, hein, comme ça on aura vu les trois plus grands maîtres de l'estampe japonaise, avec Ocuzé, donc il faut penser à Hiroshige, Ando, Hiroshige. Mais j'en parlerai peut-être donc la prochaine fois, mais comme j'ai tout à l'heure évoqué les étapes de la route du Tokaido, on va terminer là-dessus, ça sera très très bien, Ando Hiroshige, rival d'Ocuzé, c'est un rival d'Ocuzé. Il a un talent de paysagiste qui est reconnu et qui sera reconnu grâce à cette publication qui fait le succès donc, de Hiroshige, les 53 étapes de la route du Tokaido. Donc c'est la route, je le rappelle, qui relie la capitale du shogun, c'est-à-dire Edo, à la capitale impériale, c'est-à-dire Kyoto, Eyan. Voilà, donc c'est l'axe principal du Japon de l'époque. Hein, Tokaido, et c'est une des 5 routes qui traversent le Japon. Il y a 5 artères majeures au Japon. Gokaido, hein, donc les 5 artères Gokaido, et le Tokaido, c'est une des 5 artères justement créées à l'époque Edo pour améliorer le contrôle sur l'ensemble du pays, ou les routes tout simplement, hein, tout bêtement. Et donc là vous avez effectivement une série qui se développe, qui est très très intéressante, donc chez Hiroshige, Voilà, donc là ici c'est Goyu sur le Tokaido, la cité, hein, la cité de Goyu sur le Tokaido, qui est une des 53 étapes de la route du Tokaido. Donc ça c'est Hiroshige. Et on va retrouver, bien sûr, la 18e étape sur cette route, c'est-à-dire ce qu'avait donc représenté tout à l'heure notre Okusei, souvenez-vous, le coup de vent là, hein, qui nous situait à Ejiri. Ejiri, c'est la 18e étape. Je vais vous la montrer. Avant cela, vous remarquerez bien que c'est de l'ukiyo-e, voire même, hein, toujours ce Yamato-e. Remarquez la perspective qui nous introduit à l'intérieur des habitations, comme c'est vrai depuis l'époque Heian. Hein, donc depuis le Xe siècle, il y a toujours cette perspective qui nous introduit à l'intérieur des maisons. Et voici donc la 18e étape, celle que tout à l'heure, Okusei a représentée, mais d'une façon totalement différente, puisque c'était avec un coup de vent. Donc Hiroshige, Okusei, ils sont contemporains et rivaux, mais très différents quand même, hein, très très différents. Voilà, Ejiri, Ejiri Juku, c'est donc là, l'étape en question, hein. Avec ici donc une très belle vue qui montre de bateaux ancrés devant le village de pêche de la baie de Suruga, justement, où on se trouvait tout à l'heure avec Okusei. On reviendra donc la semaine prochaine sur Hiroshige, parce que Van Gogh était fasciné par ce graveur-là, plus peut-être encore que Okusei. Donc, on essaiera d'expliquer pourquoi Van Gogh était si attiré par Hiroshige, peut-être plus que Okusei. Donc on en parlera la semaine prochaine, ça sera le cours de la semaine prochaine.